pour moi de nous retrouver au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse cette assemblée, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage. Si vous vous souvenez, lors de notre dernier passage, nous avons partagé ce que Jésus était le maître du sabbat, donc maître du repos, maître de notre repos. Et j'espère que pendant cette période, vous avez pu mettre en pratique cette parole de Dieu. Et non pas seulement vous contenter d'écouter ce qu'un prédicateur peut apporter, mais vous réjouir de dire, eh bien, oui, cette parole est vraie et je désire la vivre. Tout à l'heure, nous avons entendu une sœur que je veux bénir ici, bénir aussi ce qu'elle est, ce qu'elle vit, et remercier le Seigneur de continuer de la fortifier, de l'encourager, de la relever. Le Seigneur est bon, le Seigneur est saint, mais le Seigneur est présent. Quelqu'un l'a aussi dit ce matin, il est présent au milieu de nous. Nous n'avons pas de choses particulières à faire, simplement être. C'est extraordinaire. Nous n'avons pas à faire des choses, mais Dieu nous invite à être. Être dans sa présence, être avec lui, et lui en nous. C'est le retour, c'est extraordinaire ce retour. Alors, est-ce que Dieu est vraiment le maître de notre vie? C'est une question à laquelle chacun de nous est libre de répondre. Mais, il m'est venu une parole, une pensée très forte ces derniers temps. Comment marche le chrétien aujourd'hui? Est-ce qu'il marche par la vue ou est-ce qu'il marche par la foi? On a chanté un chant en introduction. J'ai pas compté le nombre de fois où nous avons lu « Par la foi nous marcherons ». Mais si je compte qu'il y a dans le refrain 4 fois, qu'il y a 4 versets, 4 fois 4, ça fait grosso modo 16, plus le nombre de fois où nous l'avons répété dans notre cœur, eh bien dis donc, que voilà des promesses pour nous. Sommes-nous prêts à marcher par la foi ou continuerons-nous à marcher par la vue? Il y a un autre chant que nous chantons assez souvent. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je ne marche non plus par la vue, mais je marche par la foi. Et je répète, le Dieu de victoire habite en moi. Mais qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire aujourd'hui pour nous? Il y a donc plusieurs manières de marcher. La plus courante, c'est celle que nous offre notre regard, ou les médias, c'est-à-dire la marche par la vue. Publicité en tout genre, photos, illustrations, etc. Tout cela, nous le voyons. Notre vision des choses et des réalités quotidiennes. Le printemps est là. La forêt a passé du brun au vert, tendre. Et voici un nouveau feuillage. Cette vision des choses est actuelle, elle est au présent, en opposition à ce qu'elle était. Mais elle n'est pas placée dans notre futur. Seule notre imagination pourra nous donner de voir plus loin. Dans la Genèse, Dieu fit et créa tout pour combler le regard de l'homme et de la femme. Il leur donna de marcher par la vue, en leur présentant forêts, champs, cours d'eau, poissons et animaux, et même l'arbre de la connaissance. Dès le moment où Dieu leur demanda de regarder avec les yeux de la foi, ils ne le purent pas, retombant dans ce que la vue leur commandait. Je désire ouvrir une petite parenthèse. Dieu nous a pourvus de 5 sens. Ces derniers sont synonymes de vie et sont indissociables. L'ouïe nous permet d'entendre. La vue nous permet de voir. L'odorat nous permet de sentir. Le goût nous permet de goûter, d'avoir de la saveur. Et le toucher nous permet de toucher, de palper, de donner du volume. Dans Genèse 3, au verset 3, Dieu parle déjà du goût et du toucher. Et il dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Plus loin, c'est l'ouïe, la vue, le toucher et le goût qui sont à l'origine, malheureusement, de la chute. C'est donc souvent l'ouïe et la vue qui sont à l'origine de nos dérapages. Les 5 sens font partie du concret de notre vie. Les 5 sens sont à notre disposition afin de nous permettre de vivre sur terre. Ils sont matière. Dans Jean 4, au verset 48, Jésus leur dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Il est donc plus facile de croire par la vue, mais c'est à court terme. Faire la volonté de Dieu ne peut pas se passer que par la marche, par la vue. Nous serions alors des pantins, sans colonne vertébrale, influencés et sans choix. Jésus a su donner à ses disciples plusieurs démonstrations de la marche par la foi, avec un appui de la marche par la vue. Relisons Luc 19, au verset 30. Souvenez-vous de cet épisode, avant le dimanche des rameaux. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Quelle expérience les disciples ont vécu à ce moment-là. Le Seigneur demande aux disciples de marcher par la vue après avoir marché par la foi. Plus fort encore, nous venons de vivre le jeudi de l'Ascension. Dans Acte 1, au verset 9, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Là, le Seigneur demande aux disciples de marcher par la foi après avoir marché par la vue. Paul, lui aussi, nous invite à persévérer dans la marche par la foi. Il y a un verset clé que nous devrions apprendre par cœur. Il n'est pas difficile. Hébreux 11, 1. Or, la foi est la démonstration des choses qu'on espère. Ça y est, vous voyez, je ne l'ai pas appris par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Ces trois versets et ces trois expériences demandent en premier de faire un choix. Et le choix, c'est déjà les prémices d'une vie par la foi. Lorsque je fais un choix, je prends la décision d'abandonner une solution au profit d'une autre. Je ne me pose pas la question de ce qui pourra se passer après. J'accepte cette décision et je la prends. C'est pour ça que je peux dire, ce sont les prémices d'une marche par la foi. C'est le choix qu'Adam et Ève ont fait en préférant ce que le serpent leur faisait miroiter par la vue par rapport à ce que Dieu leur proposait par la foi. La marche par la vue, c'est raisonnable. C'est compatible avec notre raison, avec ce que nous voyons. Elle est matière, elle est palpable. Par contre, la marche par la foi est déraisonnable, puisque faisant appel au côté spirituel ou intérieur de notre être. La foi, c'est la matière spirituelle que Dieu utilise pour transformer notre vie. Quel choix sommes-nous prêts à faire dans notre vie et pour notre vie? Je désire partager avec vous une portion de la parole de Dieu qui présente particulièrement cette marche par la vue et cette marche par la foi. Avec peut-être une découverte fondamentale pour notre vie. J'ai pris Abraham pour préfigurer cet exemple. Abraham, souvenez-vous de son premier prénom, Abram, ce qui signifie père élevé, donc puissant. C'est vrai qu'il était très riche et sa famille était très riche. Mais Dieu lui donna un autre prénom, Abraham, qui veut dire père des multitudes. Voilà déjà un signe visible pour une mission invisible. Donc, Dieu parle à Abram et lui dit « Quitte Charan et va t'établir dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, verset 1. Si vous avez l'occasion, relisez Genèse 12 et suivant. C'est extraordinaire ce que Dieu peut nous parler au travers de ses Écritures. Ils arrivèrent donc, sa femme et lui, au pays de Canaan. Il le parcourut, et après l'avoir vu, l'Éternel lui apparut, et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Il a alors 75 ans. Gardez ce chiffre. Puis il y a séparation avec Lot, avec son neveu. Il y a encore là plein de situations difficiles. Et comme si Abram avait besoin, pour se fortifier, de quelque chose de particulier, Dieu à nouveau lui parle. Genèse 13. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. À nouveau, Dieu vient parler à Abraham, Dieu vient le fortifier, l'encourager, car il connaît le cœur d'Abraham et il sait qu'il en a besoin. Abraham fut ensuite chahuté dans diverses histoires, des guerres, des prises de position, différentes choses qui ont travaillé sa vie. Mais il reste droit. Et il ne se laisse influencer par personne. Mais à nouveau, il a besoin d'être fortifié. Car il est découragé. La vie n'est pas facile. Le découragement peut être là. Il ne faut pas passer inaperçu ces choses-là. Et à nouveau, Dieu lui parle. Il reste droit, il ne se laisse pas influencer, mais il a besoin de cette fortification, il a besoin de ce renouvellement. Et dans un songe, Dieu lui dit, « Ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » S'engage alors un partage et un dialogue entre Dieu et Abraham, avec comme résultat une parole de Dieu, « Celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritage. » Et cette phrase qui ouvre à Abraham la porte de la foi, parce que à ce moment-là, Abraham eut confiance totalement en l'Éternel. Il y a une intimité entre Dieu et Abraham. Malheureusement, Dieu lui demande d'avoir de la patience. Et ça, aujourd'hui encore, ça nous manque. Cette confiance que la parole de Dieu, dont la parole de Dieu nous parle, elle n'a pas duré. Puisque ne voyant plus les signes probants de Dieu, et ayant perdu ce dialogue avec Dieu, parce que ce dialogue, c'est pas un monologue. Dieu attend de nous aussi que nous participions à ce qu'il désire nous dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il ne marchait plus par la foi, il se remit à fonctionner par la vue. Et il s'ensuit l'épisode triste d'Agar et d'Ismaël. Pourtant, il n'y a qu'onze ans qui nous séparent de l'appel de Dieu et de la naissance d'Ismaël. C'est long et c'est pas long. Ces derniers épisodes chagrinent Dieu. Mais ce ne sera que 13 ans plus tard que Dieu reprendra le dialogue avec Abraham. Pendant toute cette période, Dieu est là. Mais Abraham continue sa vie seul. Mais Dieu n'abandonne jamais. Et après ces 13 ans, Dieu revient vers Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Souvenez-vous, au début de notre partage, Abraham ne s'est pas laissé influencer par qui que ce soit. Il restait droit et intègre. Alors ça, c'est un coup de fouet pour Abraham. Cette parole terrasse Abraham et Dieu confirme son engagement par un nouvel élan. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Petite parenthèse, c'est quand même extraordinaire. Dieu a un plan bien précis pour Abram, qui sera Abraham, malgré les écarts, malgré tout ce qu'Abraham a vécu. Dieu ne change pas. Et ça, pour nous, aujourd'hui, ça doit être un encouragement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes hommes et femmes. Sommes-nous persévérants? La persévérance, aïe aïe aïe, il y a encore du boulot. Dieu va également transformer sa femme à ce niveau-là. De Sarai, princesse, en Sarah, étendre, grandir. Voilà ce couple qui a sur lui quelque chose d'avenir. Rien n'est encore fait, mais tout est dit. Dieu a parlé. Malgré ces signes tangibles d'une transformation personnelle et dans le couple, Abraham ne croit que ce qu'il voit. Il a à côté de lui une femme stérile depuis le début de leur vie conjugale. Et il va plus loin. Il met même en doute la parole de Dieu. Dans Genèse 17, on lit « Abraham tomba sur sa face et il rit, et dit en son cœur, « Mais naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 85 ans, enfanterait-elle ? Sarah elle-même vit la même chose. Lorsque les envoyés de l'Éternel vinrent confirmer ce que Dieu avait dit, elle rit en elle-même et elle dit « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur est tellement vieux. » Ce ne sont pas là des agissements ni des paroles de ce couple qui arrêteront le plan de Dieu. Si ces paroles ont été écrites et qu'aujourd'hui nous pouvons les partager, c'est parce qu'elles sont vraies. C'est pas seulement des belles histoires, c'est une réalité. Dieu reste, Dieu est souverain. Afin de montrer à Abraham que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais au cœur, il renoue un nouveau dialogue avec Abraham, l'entraînant dans une réflexion non plus visuelle, mais spirituelle, dans la pensée de Dieu lui-même. Dieu va écouter Abraham, son ami. Vous vous rendez compte? La progression. Abraham est devenu l'ami de Dieu. En parenthèse, nous aussi, en Jésus-Christ. Il va même dialoguer avec lui à plusieurs reprises, au travers d'Abimélec notamment, l'histoire d'Agar et d'Ismaël, et plusieurs histoires qui s'en suivent. Et c'est pour ça que je réitère ma proposition, lisez la Genèse 12 et les chapitres suivants. Et c'est donc à 100 ans que Sarah mit au monde un fils à Abraham et lui donna le prénom d'Isaac, comme Dieu le lui avait dit. Et Isaac veut dire « celui qui vit ». Mais ces épisodes ont fait perdre à Abraham la vision du départ. Je vous la relis. L'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham a donc un fils. Il a une femme. Il a une situation. Il vit en paix. Mais quoi de meilleur? Concrètement et à vue humaine, et même il va plus loin, il concrétise cette position en plantant des arbres, des tamaris. Ce sont des arbres extraordinaires qui donnent des fleurs, qui donnent de l'ombrage. Mais ça ne pousse pas en un quart d'heure. Donc, entre guillemets, Abraham s'est établi. Alors que nous venons de lire, dans le pays que je te montrerai. Dieu ne lui a jamais dit, tu es arrivé. Dieu ne nous dit pas, aujourd'hui, vous êtes arrivé. Nous sommes en chemin. Alors Abraham, dans son cœur, c'est une paraphrase un peu, Abraham dit, j'ai assez vécu, maintenant je m'installe. Et pour couronner le tout, il invoque le nom de l'Éternel sur sa nouvelle demeure. Comme ça, au moins, le tour est bouclé. N'y a-t-il pas là, d'une certaine manière, une attitude à mettre la charrue avant les bœufs? Nous pouvons paraphraser en disant, Dieu a-t-il vraiment dit le pays que je te montrerai? Ne sommes-nous pas, nous aussi, à certains moments dans notre vie, un peu comme Abraham? Regardant à notre bien-être, oubliant ce pourquoi Dieu nous a appelés. La vision est avant tout spirituelle et souvent déraisonnable au regard du visuel quotidien. Alors Dieu va mettre Abraham à l'épreuve afin de lui permettre de ne pas oublier ce qu'il a reçu de Dieu. On voit une première chose. Abraham aime Dieu. Et il demeure à sa disposition. Parce que lorsque Dieu lui parle, il répond, « Me voici. » C'est le même épisode que Samuel a vécu. Lorsque Dieu appelle, « Me voici. » C'est aussi une invitation pour nous aujourd'hui, lorsque dans notre cœur, Dieu nous parle. Me voici. Alors attention. Lorsque Abraham a répondu « Me voici », qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et va avec lui au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Suite à la lecture de ce verset, et essayant de faire abstraction de la suite que nous connaissons tous, je me permets une interprétation personnelle de ce que Dieu a voulu connaître d'Abraham. Il lui dit, « Mon ami Abraham, je t'ai fait une promesse. Par la foi, tu y as cru. Tu as obéi. Tu as quitté ton pays. Tu as quitté ta famille. Tu as quitté tes richesses. Tu as quitté tes acquis. Je t'ai reconstruit. Différent, un autre nom. Tu as été impatient, oubliant peut-être ce que je t'avais annoncé. Tu as un fils illégitime. Dans ton impatience, je ne t'en ai pas tenu rigueur. Merveilleux. Donc, la marche par la foi, ça se travaille. Et c'est un corps à corps entre nous et Dieu. Maintenant, face à ce nouveau défi, jusqu'où ira Abraham? La réponse d'Abraham, elle est surprenante. Et sa représentation et sa démonstration, elle est sans équivoque. Que marcher par la foi est devenu son quotidien. Premièrement, il obéit. Il est dit dans la Bible, il se leva de bon matin. Il prépare tout. Il fendit du bois pour l'Holocauste. Il a confiance. Nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons auprès de vous. Il ne doute pas. Dieu, à la question de son fils, il répond, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il est attentif, il est à l'écoute de Dieu. Lorsqu'à nouveau Dieu lui parle et l'appelle, Abraham, Abraham, il répond, me voici. Et il est récompensé. Après que l'agneau fut immolé, Dieu lui dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Sachons une chose, c'est que Dieu est nullement contre la marche par la vue. Si cette dernière n'est que l'accomplissement d'une marche par la foi. Si dans l'Ancien Testament, il y avait toujours une bête à sacrifier pour expier les fautes du peuple, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu, qui a porté seul le péché à notre place. Et c'est par ce sacrifice que nous avons commémoré tout à l'heure en partageant ce pain et ce vin, que ces choses-là deviennent réalité dans notre vie. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de nous mettre en marche. Nous sommes assis, nous sommes arrivés, nous sommes sauvés, gloire à Dieu. Quoi de mieux? Parce que pour marcher, nous avons besoin de trois ingrédients principaux. D'abord, la motivation. Sommes-nous des femmes et des hommes motivés? Avons-nous ce désir de poursuivre un but? Deuxièmement, nous avons besoin d'une direction. Choisir une destination, un objectif à atteindre. Et puis troisièmement, le déplacement. C'est-à-dire, nous devons nous lever, nous engager, mobiliser notre énergie dans la destination que Dieu a prévue pour nous. À ce niveau-là, à nouveau, la parole de Dieu nous parle. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui vilipenda tout l'argent que son père lui donna? À un moment donné, il a mis en marche ces trois mots que nous venons de lire. La motivation, la direction et le déplacement. Et il dit, dans Luc 15, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Mais quel exemple extraordinaire de la marche par la foi. Et la réponse, elle ne s'est pas faite attendre. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Les promesses de Dieu sont tellement extraordinaires et elles sont au-dessus du rationnel dont nous parlions précédemment. Dans Luc 1, Dieu dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. » Et ces ennemis, c'est effectivement souvent nous-mêmes, nos pensées, nos agissements, comme je le disais au début, ce que nous voyons à gauche et à droite, ce que notre vue fait pénétrer dans notre intérieur. Pour Abraham aussi, il y a eu cette promesse, il y a eu ce revivrement. Dans Genèse 22, à nouveau, et pour la dernière fois, Dieu fait cette promesse. « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. » Waouh ! Deux fois ce matin, Dieu nous parle de nos ennemis personnels. Donc Dieu aujourd'hui nous invite à nous lever et à planter pour son royaume, non pas des tamaris qui nous donnent à nous-mêmes de l'ombre, mais des arbres qui donneront de l'ombre pour les autres, pour cette postérité qui vient après nous. Mais avant tout, pour pouvoir vivre cela, nous avons besoin de retrouver, de trouver ou de fortifier notre relation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Souvenez-vous de tout l'épisode d'Abraham. Dieu l'a construit, Dieu l'a établi, Dieu lui a fait des promesses, mais avant tout, Dieu a désiré qu'ensemble, ils aient une relation d'intimité et d'amour. Si cette histoire se passe il y a très longtemps, nous pourrions très bien dire « c'était du passé ». Non. Et là, je suis catégorique. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Aujourd'hui, Dieu veut nous renouveler dans quelque situation que nous soyons, parce que Dieu nous aime. Et il a pour nous encore un tas de choses en devenir. Que nous soyons jeunes, que nous soyons plus âgés, Dieu reste le même. Dieu nous aime, Dieu veut nous aimer encore plus. Alors, je vous laisserai une dernière parole. Approchons-nous de lui. Et pouvons-nous dire avec sincérité, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, dans l'Éternel, afin de résister à toute épreuve et de le rencontrer dans toutes ses œuvres. J'aimerais vous laisser une dernière parole et une dernière interrogation. Il y a trois sortes de foi à nous de choisir. La première, c'est la petite foi. Mais elle est là, qui dit, oui, oui, Dieu peut le faire. Il y a la foi un peu plus grande, qui dit, oui, oui, Dieu le fera. Souvenez-vous de Marie, lorsque Jésus lui a parlé de son frère. Elle a dit, oui, oui, je sais, Ça se fera. Et il y a la foi agissante, celle que je nous propose, qui dit « Dieu l'a déjà fait ». Dieu l'a déjà fait. Souvenons-nous que Dieu est au milieu de nous, que Dieu par Jésus-Christ habite en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et n'oublions pas la puissance du Saint-Esprit. Souvent, le Saint-Esprit est ce Dieu oublié. Mais il est là. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. N'hésitons pas à aller vers lui. Apportons-lui notre concret, apportons-lui notre vue, apportons-lui notre vécu, et lui nous donnera de pouvoir marcher par la foi. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Et si ce matin nous avons pu partager ta parole, c'est parce qu'elle est chère à nos yeux, à nos oreilles et à notre être intérieur. Cette parole, Seigneur, elle ne change pas. Et si ce matin, parmi nous, des personnes que tu vois, que tu sondes, ont besoin de renouveler avec toi, eh bien Seigneur, tu les accueilles. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux de savoir que tu ne changes pas. C'est merveilleux de savoir, Seigneur, que tu es ce Père aimant pour chacun de ses enfants. Alors merci, Papa, de nous avoir donné Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous rappeler qu'il était bon que tu t'en ailles, mais que tu nous enverrais le Saint-Esprit. Et nous désirons marcher par la foi, renouvelés dans le Saint-Esprit ce matin. En ton nom, Jésus. Amen.